Nous allons donc écouter le docteur Jeannine Fontaine.
J'espère que vous pardonnerez ma voix. Hier, je me demandais si je pouvais venir vous parler aujourd'hui. J'étais victime du froid, du vent et du surmenage. Alors, en arrivant ici, j'ai été prise d'une certaine émotion, d'une certaine crainte, en me disant, est-ce que je suis vraiment ici à ma place, parce que j'ai vu écrit psychanalyse et je n'ai jamais été psychanalysée. Alors, je m'interroge sur l'opportunité, évidemment, de vous dire mon chemin, qui est finalement un chemin ouvert par la sophrologie, c'est-à-dire par la phénoménologie. J'aimerais savoir, pour orienter un petit peu mon discours, qui n'est pas préparé, savoir qui est dans la salle, si certains d'entre vous, certaines, ont lu un ou plusieurs de mes livres. Oui, quelques-uns. Cela nécessite tout de même que je me présente. Je suis médecin, ancien anesthésiste, réanimateur, cardiologue, transfuseur. Donc, j'ai un parcours de médecin hospitalier, d'avant-garde, puisque j'étais l'anesthésiste réanimateur des premiers cœurs poumons artificiels, de la première greffe de rein, etc. Donc j'étais quelqu'un d'avant-garde. Et j'ai continué à être à l'avant-garde de mes confrères dans l'ensemble, puisque en 1980, j'ai fait un scandale en sortant médecin des trois corps. Qu'est-ce que c'était que l'histoire de médecin des trois corps ? C'était l'histoire de quelqu'un parfaitement tranquille dans la vie, chef de service d'anesthésie et de réanimation, et qui tout d'un coup, au moment de la maladie de sa mère, ne pouvait la calmer, l'apaiser. En tant qu'anesthésiste, c'était extrêmement choquant. Ni l'empêcher de mourir, puisque j'ai essayé de faire une réanimation cardiaque sans succès. Donc, impossible de la réanimer. Il est évident que ce fut un choc. J'ai entendu une partie du discours de l'intervenant précédent, qui était fort intéressant. Et j'ai vécu un choc au moment de ma naissance, puisque je suis née à 7 mois. Au cours d'une chute de ma mère, et là j'ai vécu un nouveau choc au cours d'une chute, une chute de ma croyance en la médecine. Et ceci, je l'ai dit haut et fort autour de moi, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a autre chose que le corps. Et j'ai commencé par faire de la sophrologie, puisque c'était la seule méthode qui était à mon regard, qui s'offrait à mon regard pour essayer de calmer ces derniers instants. Donc j'étais l'élève de Caicedo dès le début, en 1970, au premier congrès de Barcelone. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes qui pensaient autrement que nous le pensions à l'hôpital. Et ils m'ont intéressée et j'ai suivi tout le cursus des médecines différentes de l'époque. Et j'ai démissionné de l'hôpital, ce qui était évidemment un scandale, non seulement pour mon entourage médical, mais pour ma famille. Néanmoins, l'émerveillement était tellement grand que j'ai tenu mon cap et j'ai continué d'étudier les médecines différentes et même tout doucement de pratiquer. Et c'est là où j'entre dans le psy. C'est qu'un jour, moi qui vivais dans l'action, dans le faire, jusqu'à présent, d'ailleurs j'étais très physique, très corporelle, puisque je voulais être danseuse, après, comme mes parents, sauf que ne voulaient pas que je sois danseuse, je voulais être professeure de culture physique, et subitement j'ai voulu être médecin à la suite d'une rencontre d'un livre de Claude Bernard. Donc, j'étais une personne très physique, avec de temps en temps un sursaut qui me projetait ailleurs. Et un jour, j'ai eu une vision en me réveillant. Et cette vision concernait, je raccourcis les circonstances, concernait un voyage aux Philippines. Étant très rationnelle, j'ai voulu savoir le pourquoi de cette vision, de ce que faisaient les Philippines là-dedans, et je me suis trouvée l'élève d'Antonio Acquaoa, qui était à ce moment-là le plus célèbre guérisseur des Philippines. Et l'on prétendait qu'il sortait des organes de corps, qu'il soignait, qu'il sortait des organes, donc qu'il les opérait, qu'il les rentrait, et qu'il n'y avait pas de cicatrices, qu'on ne voyait plus rien. C'était tout au moins le discours des gens qui en revenaient, et en particulier des journalistes. Tout cela m'a semblé bizarre. Et comme j'avais beaucoup vécu en salle d'opération et que cette vision survenait, je suis allée aux Philippines, je suis devenue l'élève d'Antonio Acquaoa et je me suis aperçue que nous n'avions pas le même langage. Quand on disait « nous, on ouvre le corps », sous-entendu physique, lui disait « j'ouvre le corps éthérique ». Mais comme corps éthérique n'a pas de valeur, pour nous, ça ne signifie rien du tout. On oubliait éthérique. Et donc, on les prenait pour des fantaisistes. Il ne sortait pas d'objets, il ne sortait pas d'organes. Il y avait des matérialisations de différentes formes, de différentes couleurs, qui n'avait rien à voir avec un organe. Je le répète, j'étais anesthésiste, réanimateur, je savais ce que c'était un organe. J'avais aussi disséqué, comme tous les médecins. Et donc, je me suis trouvée en porte-à-faux avec toute l'opinion qui régnait en France. J'étais déjà en porte-à-faux avec l'hôpital, puisque j'avais démissionné, donc avec mes confrères, j'étais en porte-à-faux avec ma famille, j'étais en porte-à-faux avec l'opinion publique concernant les guérisseurs. Seule mon ardeur et ma santé physique me permettaient, ma passion aussi, me permettaient de tenir le coup. Je dois dire que ce sont des choses qui arrivent à un nombre d'entre nous et j'ai reçu et je reçois encore des lettres dans lesquelles les lecteurs ou les patients se reconnaissent dans mes livres et me disent combien ils souffrent de ne pouvoir être compris. Et je ne suis toujours pas comprise après, ça fait 30 ans, puisque mon mari était chirurgien. J'ai une fille qui est ophtalmologiste, qui ne me voit plus depuis 25 ans, et je n'ai pas eu le droit de voir les petits-enfants que j'aurais pu polluer. Heureusement, j'ai une autre fille qui, elle, est neuro-ophtalmologiste, mais qui admet tout et qui a sans doute une autre constitution. Et comme je fais pas mal d'astrologie médicale et que je suis à mon troisième livre d'astrologie médicale, je peux voir les différences de constitution entre mes deux enfants. Je vous dis ceci parce que c'est un phénomène donc souvent vécu et qui montre bien les différences de constitution. Pour moi donc, mon expérience aux Philippines m'a fait comprendre que premièrement, les guérisseurs, ça existait. que les Européens, que mes confrères pouvaient se tromper, que les patrons que j'admirais, les plus grands, n'étaient pas infaillibles et qu'il fallait tout remettre en question, qu'il y avait du travail sur la planche. Alors, seul, discrètement ou parfois brutalement, entrant dans le chou, si on peut dire, de mes confrères, je me suis affirmée, j'ai fait mon petit chemin. J'ai fait mon petit chemin parce qu'il s'est trouvé que moi aussi j'étais guérisseur. Je ne le croyais pas, je croyais être une scientifique, j'analysais les choses, mais j'ai bien été obligée d'admettre que j'étais guérisseur, c'est-à-dire que j'avais une énergie supérieure à la normale. Parce que j'ai compris auprès d'Akpawa que toutes les spécialités que l'on apprenait, l'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculomédecine, l'ostéopathie, la sophrologie, tout cela touchait une seule et même chose que j'appelais l'énergie, enfin qui s'appelle l'énergie et qui touchait au corps énergétique. Alors, restait à connaître l'anatomie de ce corps invisible qui agissait, qui était agi, et comment, quand on était une scientifique. J'ai commencé par observer qu'il y avait trois sortes de résultats chez les malades. Premièrement, ceux qui étaient intégralement guéris par l'intervention du guérisseur ou par l'intervention des médecines différentes. J'ai pensé que nous travaillions à ce moment-là sur ce que j'appellerais le deuxième corps, c'est-à-dire le corps énergétique, qui était remis en ordre, dont l'anatomie, puisque je supposais qu'il avait une anatomie, une physiologie, une physiopathologie, était remis en état. Il y avait des gens qui n'étaient absolument pas guéris, mais qui étaient transformés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus peur de la mort, ils avaient le moral, ils faisaient avec ce dont ils disposaient. Et là, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, un élément supérieur que j'ai appelé le corps spirituel. Et puis, ceux qui résistaient aux guérisseurs ou qui ne répondaient pas très bien, mais qui relevaient de la médecine classique, c'était le corps physique. Donc, j'étais en présence du corps physique, du corps énergétique, du corps spirituel, auquel il fallait ajouter le corps éthérique dont parlait Akpawa. Et j'ai fait la rencontre d'un physicien, d'un deux mêmes grands physiciens, après mon premier livre, Médecin des trois corps, et qui m'ont dirigé un petit peu, orienté, vers la physique quantique. Ils m'ont dit, vous avez sûrement découvert la médecine quantique en faisant ce que vous faites. Alors j'ai étudié un peu la physique quantique et avec cette petite idée derrière la tête, en examinant les malades, car je suis allée 7 fois aux Philippines tout de même, entre-temps j'avais quelques malades qui m'étaient confiés par des amis ou par Jacques Donat par exemple, qui avait été aussi mon maître en sophrologie, et je les palpais. Je palpais le visible et je palpais aussi l'invisible. Et petit à petit, j'ai compris que nous étions faits comme l'atome de Niels Bohr. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'est l'atome de Niels Bohr. C'est fait d'un noyau et autour de couches d'électrons. Avec des lois strictes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges d'électrons. Quand il y a échange d'électrons, si l'électron descend d'une couche supérieure vers une couche inférieure, la couche inférieure va augmenter son énergie. Et la couche supérieure, elle va capter une énergie de la couche qui est au-dessus, etc., etc., etc. C'est-à-dire que l'énergie vient du dehors. L'énergie étant là, le corps physique a des capacités de défense qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas d'énergie. Donc, il y a un auto-traitement. À partir de l'énergie, le corps physique est capable, dans une certaine mesure, de s'auto-traiter. Je vais vous faire un petit dessin tout de même au tableau. Alors, voilà le noyau. Imaginez que c'est le corps physique. Voilà les couches d'électrons. Une première couche d'électrons, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. En principe, il y en a sept. D'ailleurs, chacune de ces couches peut, dans des conditions particulières et pathologiques, se subdiviser en sept autres couches. C'est ce qui se passe dans l'allergie. Vous comprenez déjà qu'au fur et à mesure que je voyais des malades, j'analysais l'état du corps physique, l'état du corps éthérique qui est le double du corps physique, et l'état des électrons. Alors, voilà comment fonctionne un guérisseur. Imaginez que ce soit moi le guérisseur. Ici, les énergies sont basses. Les énergies basses, ça veut dire très basse, ça veut dire un corps physique qui vibre à deux pulsations, pulsations prises au pouls. Je vous expliquerai un peu plus après. Ici, deux, ici, deux, ici, deux, ici, deux. C'est le plus grave, hein, ça. Imaginez que je passe, ou qu'un guérisseur arrive et passe sa main ici. Il va transmettre de l'énergie. Un guérisseur ordinaire vibre au minimum à 55. Un bon guérisseur vibre à 72 ou à 92, un très bon. Imaginez donc que deux personnes s'approchent avec l'intention de se mettre en rapport. Il est évident qu'il va y avoir un transfert d'énergie, c'est-à-dire un transfert d'électrons. Et les vibrations, ici, vont se modifier. C'est-à-dire que ici on va peut-être avoir 3, là, on va avoir 4, là, on va avoir 5, là, on va avoir 6. C'est-à-dire que le sujet va se relier à l'extérieur. Non seulement par le jeu des électrons, mais par les jeux des chakras, ce qui est l'objet d'un autre livre que j'ai fait, et j'ai découvert les chakras sur moi-même au cours d'un voyage en Amérique après un accident. Ça s'intitule la médecine des chakras, parce que je ne croyais pas, je n'admettais pas les versions des chakras. Les livres que je lisais me semblaient obscurs. Il a évidemment fallu que cela passe par moi, pour qu'en tant que scientifique et rationaliste, je puisse le comprendre, l'admettre et le vivre. Alors, les chakras, ce sont des tours de spire qui passent d'une orbe à l'autre et qui transmettent l'énergie d'abord dans un sens, puis dans un autre. C'est-à-dire que ce sont des moteurs. Ça vous paraît très simple, et c'est très simple, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il est évident que ça demande tout de même un examen pour savoir l'état du malade, sa gravité et l'état du corps éthérique. Parce que nous allons parler maintenant du corps éthérique. Je peux me déplacer ? Alors, tout ceci est évidemment l'objet d'un travail phénoménal. Ça fait près de 30 ans que je travaille là-dessus, à palper, à tâter, à mesurer. Étant cardiologue, j'ai appris à mesurer, à analyser un électrocardiogramme. Ayant introduit l'électroencéphalographie en anesthésie et réanimation, j'ai appris à examiner un électroencéphalogramme. Donc, j'ai étudié l'invisible, les électrons, à ma façon, c'est-à-dire comme j'aurais étudié un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme, avec beaucoup de soin en analysant les formes, la force, etc. Alors, le corps éthérique, c'est le corps physique. Le corps éthérique, là, c'est ton... Il est grossi pour le que vous voyez. Le corps éthérique peut avoir peut souffrir de pathologies lui aussi, des pathologies de forme. Il se rapproche, il s'écarte, il s'avance, il se décroche. Et ceci, on peut le sentir sous la main. Quelle est l'importance du corps éthérique ? J'ai découvert que sur le corps éthérique circulaient les méridiens d'acupuncture. C'est pourquoi il y a tellement de discussions au niveau des méridiens d'acupuncture que les classiques prouvent qu'il n'y a pas de méridien d'acupuncture sur la peau du corps, qu'il s'agit de toute autre chose, de vaisseaux lymphatiques. Et que les acupuncteurs, finalement, ça va assez mal se défendre quand il s'agit de décrire les méridiens d'acupuncture ou de prouver leur existence sur la peau. Tout simplement parce que les méridiens d'acupuncture circulent sur ce corps éthérique. Et en certains points, les forces, l'énergie du méridien d'acupuncture pénètrent dans le corps physique, au niveau des points d'acupuncture. J'ai l'air de vous lancer ça à la figure, comme ça, en disant voilà comment ceci, voilà comment est cela. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup douté, je vous donne le résultat de milliers d'expériences. Et j'ai appris à quelques élèves à sentir la même chose ils pourraient également vous l'expliquer. Donc, le travail, ça va être d'une part d'envoyer de l'énergie au corps énergétique, à cet atome, cette périphérie de l'atome. Deuxièmement, à réguler le corps éthérique de telle façon que les énergies pénètrent correctement surface du corps physique. Et puis là, vous aurez les récepteurs de dopamine, etc., qui vont faire leur travail et qui vont régler la distribution de cette énergie en plus, en moins, et le corps physique fonctionnera. Alors, après avoir conçu cela, expérimenté avec ce qui est possible et ce qui est impossible, parce que si le corps physique est trop abîmé, s'il est en fin de vie, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai voulu intégrer cet atome dans le cosmos. Alors, je ne sais pas si j'ai la... Non, j'ai perdu la feuille, elle doit être dans mon sac à main, c'est pas grave. Je me suis dit, cet atome, est-ce que c'est logique de considérer l'homme comme un atome ? Le réduire à ça. Et puis j'ai considéré les dimensions du cosmos et nos dimensions à nous. Et à ce moment-là, j'ai accepté l'idée que nous ne fussions qu'un atome au sein du cosmos. Mais le cosmos, qu'est-ce que c'était ? Et là, il y a Dieu, il y a le diable, il y a la science, il y a le monde ésotérique. Bon, j'ai fait un méli-mélo avec tout cela. Et je me suis avouée vaincue jusqu'au moment où j'ai rencontré l'abbé Lemaître, un physicien qui est mort maintenant, qui est né en fin de la fin du siècle dernier, enfin avant-dernier, 1894 ou quelque chose comme ça. Et cet abbé Lemaître, je ne sais pas pourquoi, on n'en parle jamais. Pourtant, il avait une idée géniale d'où a dérivé le Big Bang. Mais le Big Bang, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Enfin, ça n'a pas d'écho. Alors que l'hypothèse de l'abbé Lemaître, pour moi, elle a un écho. Pour lui, Dieu est comme un œuf, était l'œuf cosmique et l'œuf cosmique primitif. Qui, pour s'exprimer, a éclaté sous la forme d'un plasma. Le plasma c'est pas le plasma sanguin, c'est un plasma physique qui est reconnu d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Il a sa définition, c'est-à-dire que c'est une soupe nucléaire. Et donc, ça a donné naissance à un premier monde. Mais comment ce monde peut-il subsister et se régénérer ? Alors, l'abbé Lemaître, aidé d'Einstein et de quelques autres physiciens, se sont dit, pour que le monde ait cette expansion, il faut que les noyaux, que le noyau primordial se régénère. Soit capable de reformer quelque chose, de restructurer, que ce plasma puisse redonner quelque chose. Et effectivement, je passerai sur les lois, hein, j'explique ça un peu mieux dans ce livre-là. Les noyaux, effectivement, peuvent se régénérer. Et de nouveau, se forme une sorte de noyau primitif, d'œuf primitif, lequel va éclater de nouveau, redonner du plasma, etc. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, c'est-à-dire du noyau primitif, qu'on peut appeler le divin, enfin que j'appellerai le divin comme le supposé d'abord l'abbé Lemaître, sans trop le dire, mais enfin, c'était implicite, on arrive à créer plusieurs mondes et à accepter l'idée d'un monde en expansion. Et merveille, ce que je n'avais pas compris chez les ésotériques qui parlaient de plusieurs mondes, on les retrouve là en physique moderne, en physique quantique. Donc, pour moi, j'étais satisfaite. La physique m'expliquait l'ésotérisme. Alors, il est évident que je vous fais un raccourci suprême de quelque chose de très complexe qui contient à la fois tout l'ésotérisme, toute la physique moderne, et qui ne conviendra certainement pas aux astronomes. Mais c'est ma version, et je la trouve cohérente, et elle explique beaucoup de choses. Parce que lorsque le noyau primitif éclate, il envoie non seulement de l'énergie, mais aussi des informations. Et nous nous trouvons donc devant une explication du traitement, peut-être des psychanalystes, mais je ne suis pas psychanalyste, en tous les cas, des sophrologues, des guérisseurs, des auriculothérapeutes, qui pensent quelque chose avec la force pensée et qui l'envoient vers le malade, à la fois l'information et l'énergie, et qui obtiennent un travail et un résultat. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire. C'est un résumé extrême d'une dizaine d'ouvrages qui expliquent ça petit à petit, progressivement, avec les cas cliniques, etc. Et de deux livres d'astrologie médicale, le troisième est en cours. Que vous dire encore? Eh bien, évidemment, c'est ma vision des choses, qu'elle essaie d'être cohérente, en tous les cas, que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui m'a permis de faire cela? C'est peut-être d'être psy. Car alors que je me croyais très physique, très sportive, en réalité, en faisant les thèmes, en étudiant l'astrologie, je me suis aperçue que je jouissais d'un syndrome de Neptune, car, ça c'est encore une définition, mais on irait trop loin, Neptune est, la position de Neptune dans un thème évoque le lointain, la distance, et nous met en communication avec le lointain. Et puis il y a une autre planète, Uranus, etc. Enfin, il y a toute une structure dans un thème qui permet à l'individu d'entrer en rapport avec l'invisible, avec ce que les autres n'entendent pas, avec ce que les autres ne voient pas. Alors, je vous dirais que ma première expérience de psy, je vais quand même vous la raconter, à titre anecdotique, on terminera là-dessus, date de mon enfance, parce que ma grand-mère était psy. Elle me disait le matin ce qui allait se passer dans la journée, c'est-à-dire qui était mort, qui allait venir déjeuner, qui allait venir lui dire bonjour, alors elle allait faire les courses en conséquence. Je vivais avec elle dans cette espèce de non-dit que je trouvais normal. Et pourtant, je n'en parlais à personne, ni à mon père, ni à ma mère. C'était quelque chose entre ma grand-mère et moi. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas encore expliqué la chose. C'était caché. Je savais que c'était quelque chose de caché, de secret, qui ne devait pas être dit ailleurs. Et puis, ma première expérience date du jour où je suis allée à la faculté des sciences pour prendre des renseignements concernant l'inscription en médecine. La première expérience vraiment dure comme fer, celle-là. J'entre dans la faculté, je suis sur le pas de la porte et j'entends une voix qui me dit « Voilà ton mari ». Je regarde dans la rue, personne, je regarde dans le hall, je ne vois personne. Je m'avance et au fond, dans le noir, dans le sombre, car il faisait du soleil dehors, je vois un garçon de dos, grand, pillé d'un imperméable marron, je m'en souviendrai toujours. Je le regarde de profil en m'avançant, il avait un beau profil. Je dis, si celui-là, c'est pas mal. J'étais hélas, à ce moment-là, trop sensible au physique, à l'esthétique. J'étais l'artiste avant d'être la psychologue ou la psychanalyste, que je ne sais pas encore. Et voilà. Alors, je le regarde, je l'examine, lui s'en va, moi aussi. Et puis, nous allons aux travaux pratiques après les inscriptions, un mois plus tard. Je vais chercher ma salle de travaux pratiques. J'avais le numéro 1203. Je vois 1201, 1203. Je dis, on a oublié le 1202. Je dois être dans la salle suivante. Et là, 1204, etc. Alors, je vais réclamer. On me dit, allez là où vous êtes inscrite. Oui, mais alors, il y a une erreur. Je ne vais pas avoir ma place. Allez à votre place. Et je cherche les places, ma place. Certaines qui n'avaient pas de 1203, puisqu'il y avait de 1201, 1202 qui normalement étaient l'un à côté de l'autre. Et il y avait sur la table 1201, 1203. Le 1202 est encore oublié. Les étudiants arrivent, se mettent l'un à côté de l'autre, et je vois arriver le grand garçon, qui était le 1201, se mettre à côté du 103, c'est-à-dire moi, nous étions binômes et nous devions disséquer la même grenouille. Et effectivement, il est devenu mon époux. C'était ma première expérience. Et puis, de temps en temps, cela se passe. Je ne demande jamais rien. Jamais. Je ne suis pas une voyante. Mais j'ai de temps en temps des informations comme ça qui me viennent. En général, ça touche à la santé. Et je ne sais pas pourquoi, et j'accepte tout simplement les choses sans complication. Donc, je suis un sujet psy. Je suis passée sur une épreuve qui m'est arrivée alors que je travaillais avec un chirurgien élève de Gurdjieff, c'était dont j'étais anesthésiste, et sous l'influence duquel, et sans le vouloir, à mon insu, j'ai été projetée alors dans les autres mondes, et ça c'est une expérience effrayante, quand on n'est pas préparé, mais je ne vais pas vous la raconter, c'est dans mes livres, mais j'ai cru que c'était la folie qui m'arrivait, bien que je devinais qu'il était derrière ça. Et c'était simplement une expérience, une ouverture aux autres mondes. Et je crois qu'il faut connaître ça avant de dire que les gens sont fous, ont perdu la tête ou de les enfermer. Il ne faut surtout pas les droguer, il faut surtout les écouter, les protéger et savoir qu'ils font une incursion dans ces mondes qui ont été décrits par l'abbé Lemaître. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse sur la réflexion. Et merci infiniment.
Merci, madame.
Je crois que j'ai encore 10 minutes pour conserver les temps. Voilà. Pour
y a-t-il des questions ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc, quand vous parlez des autres mondes, est-ce que vous voulez parler de l'astral, par exemple ?
Oui.
D'accord.
Les mondes qui sont d'une part décrits par l'abbé Lemaître,
oui.
Hein, les mondes successifs, le monde en expansion avec des mondes successifs, et les mondes décrits par les ésotériques. Éthérique, astral, enfin ils ont parlé de corps éthérique, astral, mental, etc. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que finalement on peut arriver au travers de la science à retomber sur ses pieds et à s'apercevoir que les théosophes, les anthroposophes savaient déjà ce qu'était la physique moderne. Et certainement que les grands physiciens sont inspirés. Les contacts que j'ai eus avec quelques grands physiciens, d'ailleurs, m'ont prouvé que ils étaient quelque part ils appartenaient au monde ésotérique. Autrement, ils ne m'auraient pas reconnu. Je veux dire qu'ils n'auraient pas eu l'attitude positive qu'ils ont eue avec moi, alors que tout le monde avait une attitude négative. En me parlant, en m'invitant, en essayant de m'instruire, ils étaient avec moi. Alors, je peux dire que les grands physiciens, certains grands physiciens ont été mes seuls appuis. Hein. Mais ils m'ont rassurée parce que derrière eux, il y avait aussi l'appui du rationalisme. Donc, pour moi, je pense que certains sujets appartenant au monde des théosophes, des anthroposophes, ont une connaissance très, très précise du monde, hein. Une voyance. Alors, je ne parle pas de la voyance quotidienne, il va vous arriver ceci ou cela, je parle de la voyance, la grande voyance de l'histoire du monde, la voyance cosmique.
Comment avez-vous découvert que vous aviez une énergie supérieure et que vous pouviez soigner les autres avec?
Quand j'étais réanimateur, on me reconnaissait excellent animateur. Et j'appartenais d'abord au service du professeur de Godard-Dalène. Et une des secrétaires du professeur de Godard-Dalène, qui venait de temps en temps remplacer l'autre, était une voyante célèbre. Je l'ai su après. Et le personnel qui était initié, alors que moi j'étais vraiment dans le bas de gamme, me disait souvent, vous, si on était deux siècles plus tôt, on vous brûlerait sur la place de Beausset. C'est-à-dire qu'il savait que j'avais quelques capacités. D'ailleurs, je faisais toujours très avancer les choses. Je contredisais des patrons, je contredisais des diagnostics et j'avais raison, souvent sans savoir très bien comment ou pourquoi, c'était évident. Moi, je n'avais pas conscience de ça. Et c'est Akpawa qui m'a dit, vous avez l'aura du guérisseur. Mais je ne croyais pas. Je pensais que c'est parce que j'étais présente auprès des malades, que j'étais très instruite, que je travaillais beaucoup, que les choses se passaient ainsi, que je savais beaucoup de choses. En fait, certes, je savais des choses, j'étudiais beaucoup, mais je ne prenais que ce qui me convenait des livres. Parfois, je passais par-dessus. Et si vous lisez Médecin des Trois Corps, par exemple, vous verrez que, étudiante en cardiologie, j'ai démonté certain nombre de titres ou de questions qui étaient posées à l'examen qui n'existaient pas. J'ai découvert des ondes en électroencéphalographiste, alors que je n'étais pas électroencéphalographiste. Enfin, mais je savais, je voyais ça. En observant. Ça, pas forcément parce que ça me venait à l'oreille, mais j'observais. Mais je crois qu'on peut avoir un don de voyance, d'observation autant que d'écoute. Ce sont des sujets passionnants dont on ne sait rien. Et il est dommage que tout ça soit occulté par nombre de cerveaux. Souvent, les plus grands cerveaux occultent ces choses-là ou les ridiculisent. Et c'est dommage. Alors, je ne sais pas si vous écoutez l'émission de Marc Monant le dimanche matin. Il a été le premier à m'y faire participer. Mon livre était sorti depuis 21 ans et gardé dans le secret, dans l'interdit. Je n'avais pas le droit de parler, j'étais interdite d'antenne, de radio, de télévision, de publicité. Et quand j'ai été interviewée par Marc Menant, j'ai été convoquée par l'Ordre des médecins qui avait la cassette et qui m'a expliqué que ma tête, ça n'allait pas. Hein. Que si je posais la main sur une armoire et que l'armoire me disait quelque chose, même si c'était un bon conseil, ça ne se faisait pas, et en plus, ça ne disait pas. Donc, j'étais très surveillée. Je suis encore. parce que précisément, j'appartenais à ce monde. J'étais un des premiers animateurs, un des premiers anesthésistes. On dirait que j'appartiens à l'histoire de l'anesthésie et de la réanimation, pour avoir fait les premiers endormis, les premiers cœurs poumons artificiels, les premiers cœurs ouverts, la première greffe de rein, etc. Bon, je ne m'en vante pas. J'étais dans cette situation parce que j'étais faite comme ça, parce que c'était mon destin. Mais c'est pas facile à vivre. Mais je dois dire que j'ai eu tellement de plaisir, de joie, d'étonnement. Enfin, je vivais un rêve. Découvrir tout ça, c'est fabuleux. C'est un émerveillement de pénétrer dans l'invisible. C'est extraordinaire. Et de le découvrir et de pouvoir l'analyser. Alors, certes, j'ai un peu gros sur le cœur de ne pas voir ma fille aînée, de ne pas connaître mes petits-enfants. Il y en a quatre. Et l'autre n'est pas marié, n'a pas d'enfant, donc je n'aurai pas de petits-enfants. Mais bon, il faut payer. On a toujours à payer quelque chose. Et je veux témoigner de ça parce que je ne suis pas la seule à vivre ça. Si vous saviez le courrier que je peux avoir, non seulement concernant cette rupture entre des mondes, mais aussi les expériences que l'on peut vivre. Donc, quand le corps éthérique se décroche, se détache, quand une partie de soi-même s'en va. Je me souviens d'un téléphone que j'ai eu en urgence, comme ça, une dame qui me dit « Je m'en vais par le haut, je m'en vais par le haut, madame, qu'est-ce que je dois faire ?» Dimanche dernier, je ne pouvais pas parler, j'étais grippée. Un dimanche matin, une dame me téléphone en disant « Je ne vais pas bien du tout, je ne vais pas bien du tout. » Je dis « Madame, je suis occupée. » Je n'étais pas occupée, je pouvais simplement, moi, avec ma grippe, mon coup de froid et tout le reste, je ne pouvais pas faire face. Et naturellement, comme tout vient ensemble, mon ordinateur ne fonctionnait pas, mon imprimante ne fonctionnait pas, je suis allée tous les jours de la semaine voir le technicien qui n'y comprenait rien, qui me disait ça marche, j'arrivais à la maison, ça marchait pas, et avec ma fièvre, avec mon rhume, avec ma toux, je devais retourner, entêtée comme je suis, retourner voir le technicien qui n'y comprenait rien non plus, qui refaisait tout. 8 jours comme ça, 8 après-midi, de 3 à 6, 6h30, tous les deux, et moi le soir encore à rechercher toute seule. Et les appareils ne marchaient pas. Hein ? Ça veut dire qu'il faut que j'achète du matériel neuf. Mais je voudrais quand même recueillir tout le travail que j'ai fait pour mon troisième livre, Le corps spirituel. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop ennuyé. Et je vous donnais des petits points de réflexion. Mais si vous avez le feeling, essayez de palper, de sentir. Et surtout, il faut aussi avoir le pouls de Paul Nogier, ça aide beaucoup pour compter. Parce que quand on met une main au-dessus d'un corps, on sent des vibrations que l'on peut compter en dessous de la main, puis des vibrations que l'on peut compter au-dessus de la main. Et on sent aussi la qualité, ça fait mal, c'est doux, ça brûle, ça pique. C'est extraordinaire. Et personne ne nous a dit ça à la faculté. Et pour moi, c'est encore de la médecine. Une autre question ? Non, vous savez tout.
Oui, oui, très rapidement. Quand vous disiez tout à l'heure que vous... est-ce qu'on peut voir les maladies dans le corps éthérique avant qu'elles ne descendent dans le corps physique ?
Bien sûr.
Et si c'est le cas, bien est-ce sûr. Que vous pouvez les traiter, enfin,
bien sûr.
Les traiter avant qu'elles ne s'incarnent ?
Bien sûr, vous avez compris tout l'intérêt. La vie vient du dehors et la maladie aussi.
Même, oui, mais alors, moi je ne sais pas, c'est un peu mélangé dans ma tête, mais... Lorsque l'on dit que les maladies ne viennent pas par hasard, je pense au cancer, elles,
est-ce qu'elles n'ont pas une utilité et est-ce que c'est bien de les traiter? Enfin, vous voyez, je suis un peu dans toutes ces questions-là en ce moment.
Alors là, on part dans l'astrologie et on part aussi dans... Je reviens à ce qu'a dit le précédent intervenant qui disait très justement, et ça a fait écho en moi quand il a dit finalement la façon dont on est, on retrouve les mêmes problèmes toute sa vie. Il est évident que s'il y a une anicroche au moment de notre naissance, cette anicroche en fonction des transits planétaires va se reproduire à telle et telle date. Mais suivant notre niveau d'évolution, elle risque de se produire soit sur le corps physique, soit sur le corps énergétique, soit sur le corps spirituel. Il faut interpréter. Et moi, j'ai des chutes. Je suis née dans une chute, par exemple, et je ne me suis pas étonnée un jour de tomber. J'ai survécu à 7 mois pesant 1300 grammes. Je n'ai pas été étonnée de tomber du 7e étage en ascenseur à Lyon, un ascenseur neuf. Je suis tombée de 7 étages. J'ai encore survécu. Mais c'était encore la chute. Et j'ai chuté de très haut aussi quand je n'ai plus cru à la médecine. Je veux dire qu'il y a des chutes successives. Chez moi, c'est la chute, c'est Saturne. Mais vous avez autre chose, une autre façon de vivre, les épreuves sur des niveaux différents, à des dates différentes. Et c'est là où l'astrologie est intéressante. Alors dans ce dernier livre, je donne quelques notions très très élémentaires justement de l'astrologie pour faire comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard. Mais l'astrologie, c'est un long travail. Moi, ça fait 30 ans que j'en fais. Non pas au quotidien, mais en médecine, en essayant de comprendre. Alors, je ne sais pas si je traduis bien les choses. Évidemment, là encore, je dérange les astrologues. Imaginez, je leur dis qu'il y a trois corps. Ils me voient d'un mauvais œil. Je leur dis que le zodiaque avec les 12 signes ne représente que le corps physique, que le corps éthérique avec les méridiens d'acupuncture, ça ne colle pas, puisque le méridien, par exemple, du gros intestin, il commence au bout du doigt, il finit là. Donc ça ne colle plus avec l'anatomie du zodiaque. Donc il y a un autre corps à décrire. Donc je dérange tout le monde. Mais peut-être que... Peut-être que quand je serai morte, on dira, elle a peut-être raison. Enfin, il y a des gens qui sont intéressés, tout de même, n'exagérons pas. Enfin, il y a beaucoup de blocages de la part des gens que je dérange. Mais je fonctionne quand même. Vous savez, avoir l'esprit sportif, c'est avoir l'esprit de compétition, mais aussi l'esprit d'endurance. Et donc, comme ça peut servir... à la spiritualité. Le corps physique, l'énergie mentale peuvent servir à la spiritualité. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous.
Je vous remercie aussi, je remercie Madame Fontaine, que vous pouvez rencontrer sur son stand. Vous pouvez trouver aussi ses livres.